Donc on va faire de l'hydratation notre deuxième et dernier cours, je pense, sur l'introduction de Shaar Eichut Be'emunah, qui s'appelle Chinour Katan, et qui est très intéressante. Chinour Katan, ça veut dire la petite éducation, puisque dans la partie de Shaar Eichut Be'emunah, l'Admour HaZaken va développer longuement des concepts très importants de la Emunah. Et avant d'expliquer ces concepts importants, d'abord l'Admour HaZaken va nous expliquer pourquoi on doit chercher à développer des concepts comme ça. Et ce que l'Admour HaZaken va expliquer dans l'introduction, c'est que finalement, quand on étudie des concepts de Emunah comme ça, on est en train de s'éduquer. Et que l'éducation personnelle est très importante. Alors je vais reprendre rapidement ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a amené un premier verset qui est écrit dans Michelet. C'est écrit, Michelet du roi Salomon, « Chanoch lanar al pitarko, gam ki yaskin le yasom humain. » Éduque le jeune homme, l'enfant, suivant son chemin, afin que, même lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas de son chemin. D'accord? Alors, on a posé la question, on a dit, mais je comprends pas. C'est évident, si tu éduques quelqu'un selon son chemin, tu le laisses faire ce qu'il veut, ben c'est sûr que lorsqu'il vieillira, il sera toujours comme ça. Il veut rien dire, ce proverbe. On est d'accord? Tu me dis, c'est quoi? Éduque, laisse ton fils, laisse-le faire selon son chemin ce qu'il veut, et quand il sera vieux, il sera toujours comme ça. Merci, je savais pas. C'est évident, tu laisses faire ce qu'il veut, il mourira blaireau comme il était. C'est normal, c'est évident. Donc c'est évident qu'ici, il y a un autre chidouche que l'Admour HaZaken, que l'Admour HaZaken veut nous expliquer. Il y a un autre chidouche que Shlomo HaMelech voulait dire. Alors l'Admour HaZaken, pour expliquer ce chidouche, il nous a rappelé que même si on sait qu'il y a 613 mitzvot, mais en vérité, toutes les 613 mitzvot, on pourrait les résumer en deux mitzvot. On va dire en deux groupes de mitzvot. D'un côté, aimer Dieu, d'un autre côté, craindre Dieu. J'aime Dieu, donc je fais ce qui lui plaît. Je crains Dieu, donc je ne fais pas ce qui lui plaît pas. Mitzvot positif, mitzvot négatif. D'accord? Ça, c'est un premier point qu'expliquait l'Admour HaZaken. Bon. Alors, le problème qu'on a, c'est quoi? Et c'est ça le but du schéma, c'est le but de la religion. Et c'est ça le but de Shaar Eichut Be'emunah. C'est que tu me demandes d'aimer Akadosh Baruch Hu, mais moi, Akadosh Baruch Hu, je l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il représente, je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé comprendre quand tu me dis que je dois aimer Akadosh Baruch Hu. Alors là, l'Admour HaZaken, et on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, a expliqué que concrètement, on retrouve deux catégories de gens. Vous avez des gens qui ont un amour inné envers Akadosh Baruch Hu. C'est des gens comme les tzadikim, par exemple, des gens que par définition, ils aiment Akadosh Baruch Hu sans avoir besoin de se travailler. Bon. Ça, la question ne se pose pas. Pourquoi la question ne se pose pas pour ces gens-là? Parce que ces gens-là, de toutes les façons, ils aiment Akadosh Baruch Hu, donc on ne se pose pas la question de comment ils vont aimer. Pour qui va se poser la question? La question va se poser pour les gens comme nous. Des gens qui, par définition, quand tu demandes qu'est-ce que j'aime pas forcément Akadosh Baruch Hu. J'aime ma vie. J'ai des intérêts, j'ai des choses que j'aime. Je prépare mes vacances, j'ai des intérêts, je pense à d'autres choses. C'est un effort pour moi de faire les mitzvot. Alors, dans cette deuxième catégorie d'amour, a expliqué l'Admour HaZaken, c'est une catégorie dans laquelle la hitbonenout, la réflexion est très importante. Pour illustrer ça, on a amené un verset. Dans le verset, toujours dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Vaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Dieu il dit, si vous écouterez mes mitzvot, asher anochim et tsevei etrem ayom, que je vous ordonne aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Le'ahava et hashem elokrem ou l'ovdo. Donc Dieu nous ordonne d'aimer, de l'aimer. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il lui dit que cette mitzvah, il nous ordonne de la faire. Vous rappelez la question qu'on a posée la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a dit?
C'est pas lié à l'action.
Ah oui, l'amour, c'est pas lié à l'action. L'amour, ça ne se fait pas. L'amour, c'est un sentiment. L'amour, ça se ressent.
Et pourtant.
D'accord? Et pourtant, le verset nous dit bien la asuta. Donc de là, on comprend quoi? De là, on comprend quoi? Qu'est-ce qu'il va expliquer l'Admour HaZaken? Qu'en vérité, l'amour, ça se fait. L'amour, ça ne se ressent pas. L'amour, ça se fait. C'est-à-dire que le sentiment est un effet. Et pour arriver à cet effet, il nous faut une cause. Et cette cause, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on se fait toute la journée, constamment, dans Torah et Mitzvot. Donc voilà pourquoi l'Admour HaZaken a appelé cette introduction au nom de Chinour, l'éducation. Parce que de la même manière que c'est pas du jour au lendemain qu'un enfant est bien éduqué, et que s'il va bien se comporter, s'il est fait et qu'il se comporte bien, ben ça veut dire qu'il y a une cause par derrière. C'est quoi la cause? C'est l'éducation des parents, avec la bracha d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Eh bien, il en est exactement de même pour notre amour et notre crainte d'Akadosh Baruch Hu. que ça ne vient pas, d'accord, ça ne vient pas tout seul. Et que si j'aime Akadosh Baruch Hu, si une personne arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il s'est éduqué à le faire, ou parce que ses parents l'ont éduqué à le faire. D'où l'importance de l'éducation. Donc avec ça, on commence à répondre à la question du début. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'il faut éduquer un jeune homme selon son chemin? Ça veut dire quoi selon son chemin? Ça veut dire qu'on te dit, écoute, toi tu as ta manière de voir les choses, ton enfant n'a pas forcément la même manière de voir les choses que toi. Et si tu as deux enfants, et bien forcément que chacun des deux enfants n'a pas la même manière de voir les choses que l'autre. Alors on te dit, sache que nous, on ne veut pas que l'enfant, il aime Dieu comme toi tu voudrais qu'il aime. On voudrait que l'enfant aime Dieu et craigne Dieu à sa manière. C'est ça le chidour, c'est ça l'éducation. Et ça, pour ça, il y a besoin de beaucoup de réflexion. Ça veut dire que le rôle du parent, c'est quoi? C'est uniquement de pousser l'enfant à réfléchir et à comprendre. Après, les conclusions qu'il va tirer, ça, on n'en sait rien. Ça, c'est pas notre rôle. C'est-à-dire que forcer, ça sert à rien du tout. Nous, ce qu'on peut faire, par contre, c'est pousser notre enfant à arriver à une conclusion. Ça veut dire le mettre dans un contexte d'école, d'accord? Voilà, le mettre dans un contexte d'école juive, d'accord? De fréquenter des gens cachers, de fréquenter des gens bien, etc., de le protéger. Comme ça, au moins, on sait que le jour où il voudra prendre des décisions, on lui a mis toutes les chances de son côté pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, quelle décision il va prendre, ça, on pourra jamais décider à sa place. Et ça, c'est le chidour. Et bien, quand on réfléchit, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous met en condition. Il nous a créé, il nous a donné des mitzvot, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a mis en condition. Mais jamais il a décidé à notre place. Jamais. Jamais Akadosh Baruch Hu est venu, il a dit, bon, maintenant j'ai décidé, vous ferez ci, vous ferez ça. Jamais. Parce que par définition, on ne décide pas à la place de quelqu'un. On peut simplement l'éduquer. Lui expliquer comment il devrait se comporter. On ne peut jamais décider à la place de qui que ce soit. D'où l'importance de cette partie que...
Monsieur, vous avez un quart d'heure de retard.
Un quart d'heure de retard.
C'est une
j'ai
un quart d'heure de retard.
J'ai voulu faire mon guide Aya, mais je suis pas arrivé.
T'es où? Messieurs, un quart d'heure de retard.
T'es au Sofitel ou quoi?
Faut pas que ça se reproduise.
Oula, oula. Oula.
C'est pas que les femmes de chambre, elles sont...
Elles sont langues de vipère.
Non.
Ouais. C'est Shalom, bon.
J'ai
eu les caves de route.
On fera fille du passé.
Donc, on était en train de dire que le bon Razakel nous dit ici pourquoi on nous parle de l'importance de l'éducation. Bah t'es pas venu tard finalement, tu m'as dit j'allais venir
non,
très tard.
D'accord.
Non parce que ma mère elle a fait à manger, je lui ai dit elle m'a dit qu'elle avait fait à manger, je voulais pas.
T'as raison, c'est bien. Donc j'étais en train de dire pourquoi cette partie s'appelle Chinour Katan, la petite éducation. Parce que l'Admor HaZaken, et ça on l'a expliqué la semaine dernière, on a résumé ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que dans la vie on peut pas forcer les gens à faire des choses. On peut simplement les éduquer. Comme dans l'éducation d'un enfant. Je ne peux pas forcer mon enfant à faire quelque chose. Ce que je peux faire, c'est le mettre en condition pour que le jour où il devra prendre des décisions, je fais tout mon possible pour lui donner toutes les clés en main pour qu'il prendra les bonnes décisions. Mais quelles décisions il va prendre? Ça, j'en ai strictement aucune idée. Akadosh Baruch Hu fait exactement la même chose avec nous. Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, moi je vous ordonne pas de m'aimer parce que si vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. Par contre, qu'est-ce que je veux faire? Je vais mettre toutes les cartes, toutes les clés dans vos mains pour que le jour où vous allez prendre une décision, vous comprenez que vous devez prendre la bonne décision. Maintenant, ce que vous décidez, ça vous faites ce que vous voulez.
Il nous dit de choisir le bien.
Bien sûr.
Le mal est bien, choisis le bien.
J'ai compris. Mais Dieu n'a pas choisi à ta place. Eh bien voilà. Moi, je te mets dans un environnement, d'accord, pour te montrer que tu devrais prendre ça comme décision, mais ta décision, c'est toi qui la prendras. D'où l'importance d'étudier des textes comme ce qu'on va étudier avec Rattachel dans les mois qui suivent, qui parlent de Emouna. Parce que ces textes vont nous éduquer, vont éduquer notre cerveau. Qui a besoin d'être éduqué. On peut pas nous dire aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Et c'est très important d'éduquer notre cerveau parce que on a expliqué que aimer et craindre Dieu, c'est la base des mitzvot positives et négatives. Aimer, mitzvot positive, craindre, mitzvot négative. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui fait les 613 mitzvot, mais qui ne sait pas ce que ça veut dire aimer et craindre Dieu, il est à côté de la plaque. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot manquent de goût. C'est pas seulement la mitzvot d'aimer et de craindre qui manque. C'est toutes les mitzvot qui sont pas parfaites, qui manquent. Parce que la base des mitzvot, le fondement des mitzvot, c'est l'amour et la crainte. Donc s'il n'a pas développé ce sentiment primaire envers Akadosh Baruch Hu de l'amour et de la crainte, il est à côté de la plaque. Donc, on doit s'éduquer constamment. C'est ce qu'on va essayer de faire dans le chapitre qui suit. Alors, on est maintenant, on s'est arrêté à Veine Inyan Avazo. Donc on est à la page 151. J'ai mangé à la maison, non? Alors, ça c'est le dessert.
Le dessert, moi.
Ah, il n'y a plus de sushis, c'est fini. C'est fini dans l'anniversaire.
On peut faire le club des sushis si vous voulez, hein, moi c'est pas. C'est... Moi perso, je n'aime pas quand il y a à manger, mais bon.
Ouais, t'as vu, il n'y a plus rien du
coup. Hein. Ouais. Parce que j'ai remarqué que quand il n'y a pas de chouche, on est plus concentré sur le cours. C'est ce que je remarque.
Normalement, non. La mastication, ça favorise la concentration.
C'est possible, bon. Quand c'est des choses raffinées comme ça. Ça marche pas. C'est comme si quelqu'un il dit, enfin, excusez-moi, dans l'esprit de l'actualité. C'est comme si quelqu'un il est en train de dire à sa femme je t'aime, mais en même temps il regarde une autre femme. La même chose, on dit j'aime le spirituel, en même temps on regarde le matériel. Enfin, c'est un peu grossi, hein, c'est une caricature, mais.
Oui, parce que je suis bien que dans le matériel.
Mais non, mais nous on mange. Il emploie des trucs.
L'actualité.
On va spiritualiser la matière.
Non, moi, des trucs.
Spiritualiser la matière quand on
mange. Oui, on peut voir ça comme ça.
C'est juste ça.
Peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, je dis pourquoi.
Non, mais c'est vrai. Parce que tout le monde prend et tout, et ça dépend.
Donc j'étais en train de dire, on est à la 7e ligne,
oui, d'accord,
non, parce que je peux envoyer l'SMS, pardon.
Pour envoyer l'SMS, le cours est commencé depuis 20 minutes.
Je reprends les trucs, tu vas voir qu'il y aura plus de monde.
Quoi? Si vous voulez, je remets, ouais, pas de problème.
Non, moi, je veux pas.
Quel rapport?
Non, on peut faire des petites choses, peut-être des petites boissons, des trucs comme ça, mais pas...
Ça commence petit, ça finit...
Pizza.
Alors, veine. Sinon, on fait comme dans le cours des jeunes. Dans le cours des jeunes, je sers à la fin.
On arrive à la fin.
Pendant tout le cours, il n'y a rien. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui m'ont dit. Ils m'ont dit, on veut pas être. Non, mais ce qui est beau, c'est quoi? C'est que c'est eux-mêmes qui m'ont dit. Ils m'ont dit, on veut pas manger pendant le cours.
Tu leur récompenses, genre.
Non, parce qu'ils m'ont dit, ça nous déconcentre. On préfère manger après.
Moi, j'aime bien manger.
Ça, par exemple, jeudi dernier.
Moi je préfère.
J'ai commandé la pizza dans un endroit et la pizza normalement elle devait arriver à 9h30 et elle est arrivée à 9h05.
Alors. Manger tout de suite.
Il fallait manger tout de suite. Je leur ai dit bon vous voulez la manger tout de suite, on fait une pause pour le cours et on continue après. Ils m'ont dit non, on finit le cours. C'est les jeunes qui m'ont dit.
Bien.
9h30, ils ont mangé une pizza froide. Ça je témoigne. Moi je dis quoi à la cavotte.
Quelle bande, tu vois. Moi j'aurais dit tout de suite on mange.
Oui, mais j'étais gêné, je leur ai dit attendez.
On est plus jeune.
Non, donc je reviens. Alors on est à la page 151, 7e ligne de la colonne de droite. Ve'ine. Inyana avazo. C'est cet amour. Ratsa Moshe Rabbeinu alav shalom lita velev kol Israël. Beparasha. Ve'ata Israël. C'est cet amour qu'on est en train d'expliquer. L'amour qui vient par l'éducation. C'est cet amour que Moshe Rabbeinu a insisté lourdement à la fin de sa vie pour essayer de l'inculquer à Israël. Pourquoi? Où on voit ça? Il y a une paracha qu'on appelle, en général, la paracha de Ve'ata Israël. Moshe Rabbeinu démarre en disant, et maintenant Israël. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire un discours, et tout d'un coup il dit, bon, et maintenant écoutez bien ce que je vais dire. Ça veut dire que là, ça va chauffer. Moshe Rabbeinu, dans la paracha, dans le Chumash de Devarim, qui est de manière générale, quelques jours avant la mort de Moshe Rabbeinu, la Istalkut de Moshe Rabbeinu, il dit, maintenant, Ve'ata Israël, maintenant Israël, écoutez ce que Dieu attend de vous. Imaginez-vous Israël qui veut écouter ce que Dieu attend. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Et vous allez voir que là, Moshe Rabbeinu est en train d'éduquer le peuple d'Israël. Il n'est pas en train de leur ordonner. Ça, c'est ça la beauté. C'est qu'il ne leur dit pas, faites ci parce que Dieu a demandé. Il va leur expliquer le contexte. Il leur dit, regardez ce qu'il y a autour de vous. En l'Hachem Elokecha Hashamayim. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, vous savez, Dieu, le ciel, d'accord, et les cieux des cieux, sous-entendu, tout ce qui peut être inaccessible, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et alors, sous-entendu, il n'a pas besoin de vous. D'accord, comme ça, Rachid explique. Il n'a pas besoin de vous. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? Dit Moshe Rabbeinu. Rak bavotera chachek. Et pourtant, vous savez, hein, qui Akadosh Baruch Hu a voulu? Il a voulu seulement dans vos parents. Vos parents, sous-entendu, ceux qui étaient où? Ceux qui étaient en Égypte. Pour leur montrer que le contraste, quoi, que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher nos parents en Égypte. Umaltem, d'accord, vegomer. Umaltem, vegomer. Moshe Rabbeinu continue, il leur dit ensuite, Akadosh Baruch Hu, progressivement, il vous a préparé. Il leur dit maintenant, vous allez faire la Mila. Parce que vous savez qu'avant de faire le Korban Pessah, c'est quoi la première Mila qu'on a fait? La Brit Mila. Mais après, Moshe Rabbeinu, il leur dit progressivement, Akadosh Baruch Hu. D'accord? Si, la Mila. On est sorti de l'Égypte grâce à deux mitzvot. Grâce à la mitzvah du sang du Korban Pessah et du sang de la Mila. On a fait la Mila.
Oui, ils ont gardé d'accord la Mila, mais c'était.
Non, ils n'avaient pas la Mila.
Ils n'avaient pas la Mila.
Ah non, ils n'avaient pas la Mila. D'accord? Donc ils ont fait la Mila. Mais Moshe Rabbeinu il va plus loin. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas seulement voulu vous faire la Mila physique. Akadosh Baruch Hu, progressivement dans le désert, il vous a habitué à Umaltem Vegomer, à faire la Mila, de quoi il parle là-bas. Rashi explique, le passage qui dit Umaltem et Orlat Levavechem. Akadosh Baruch Hu vous a poussé à faire la Mila du prépuce de votre cœur. Sous-entendu, il vous a éduqué. Ça veut dire, déjà, Akadosh Baruch Hu a ce qu'il veut. Il manque de rien. Il a le ciel, les cieux, des cieux, il manque de rien. D'accord? Ce même Akadosh Baruch Hu, qui il a choisi? De qui il avait envie? De vos parents. Et sous-entendu, il dit pas, mais vos parents, ça volait pas haut. D'accord? Ils étaient en Égypte, etc., ça volait pas haut. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, progressivement, il vous a poussé à faire la Brit Mila. Et il vous a encouragé à faire la Mila de votre cœur. Ça veut dire à travailler, à vous travailler. N'oubliez pas que, Beshivirim Nefesh, n'oubliez pas que lorsque vous êtes descendu en Égypte, vous étiez combien?
70,
sous-entendu, c'est une minorité du monde. C'est rien, c'est insignifiant. Et pourtant, mon cher Benou nous le rappelle, Dieu vous a choisi. Donc, à vous de tirer les conclusions. Est-ce que vous avez remarqué la pédagogie que mon cher Benou a utilisée? Il n'a donné à aucun moment un ordre. Il n'a jamais dit, Dieu maintenant veut que vous fassiez ci, faites ci. Non, il n'a pas fait comme ça. Mon cher Benou a présenté les faits au Ham Israël.
Ouais, d'accord. Tu veux pas.
Non, il leur dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais regardez les faits. Regardez d'où vous êtes venus, et qu'est-ce que Dieu a fait de vous. D'accord. Non, pas culpabiliser, au contraire. Il veut leur montrer. Il veut les pousser à réfléchir. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer. C'était peut-être un peu choquant. Parce que des fois, il faut un peu secouer, c'est pas de problème. Mais la force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il dit, c'est pas moi qui vais donner la conclusion, c'est vous qui allez donner la conclusion.
Il va juste d'accord faire un zoom.
Il va faire un zoom. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Maintenant, je me tais. Regardez. Je me tais. Allez-y. D'accord. Pourquoi? C'était quoi le but de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, son but, c'était d'inculquer l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers Israël. Mais sa force, c'est quoi hein? C'est qu'il voulait pas inculquer le même amour à tout le monde. Alors, dis-moi, je vous dis pas comment aimer Akadosh Baruch Hu. Moi, je vous dis simplement ce qu'il nous a fait. Et après, à chacun d'aimer Akadosh Baruch Hu comme bon lui semble. Donc, on rejoint l'enseignement qu'on a expliqué la semaine dernière. Quand on a plusieurs enfants dans la même famille, il n'y a pas une personne qui aimera Akadosh Baruch Hu, qui aimera ses parents comme un autre. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ce que nous, on peut faire, c'est présenter des faits. Les mettre dans un certain environnement. Et après, ils décideront ce qu'ils voudront. Exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a présenté les faits au Bnei Israël. Il dit maintenant, à chacun d'aimer Akadosh Baruch Hu comme bon lui semble. Donc, dans les mots, Velachen, c'est pour ça. Siyam Tvarav ala Avazo Asher Anochim et Tzavei Etrem. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait cet exposé que je viens de dire, c'était quoi la conclusion de l'exposé? Il dit, maintenant vous allez comprendre comment accomplir la mitzvah que Dieu vous ordonne. La sota, d'accord, chez Yavas, Yab Elef. Rappelez la question qu'on a posée deux secondes. La question qu'on a posée la semaine dernière. On a dit, mais Akadosh Baruch Hu, l'amour, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui se ressent. Comment ça se fait que dans la deuxième paracha du schéma, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, voilà ce que Dieu vous ordonne de faire. Mais l'amour, ça ne se fait pas, ça se ressent. Là, nous donne Admor HaZaken la réponse. Il dit, c'est très simple. Il dit, parce que l'amour, ça se ressent pas comme ça. On ne donne jamais un ordre sur l'effet. On donne toujours un ordre sur la cause. Quand on demande d'éduquer quelqu'un, jamais on va ordonner à un parent, éduque ton enfant pour l'effet. Non. On ordonne uniquement sur la cause. On dit, toi, tu dois travailler la cause, l'effet, c'est lui qui décidera. Ça, Kadosh Baruch, c'est qui tu veux, mais c'est pas toi. Exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et même Kadosh Baruch utilise la même technique. Il n'a jamais décidé à notre place. Il nous pousse la cause pour que l'effet, on prenne les décisions qu'on veut. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu voulait. Moshe Rabbeinu, son but était, voilà, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi vous devez aimer Akadosh Baruch Hu, vous devez comprendre que vous devez aimer Akadosh Baruch Hu. Mais c'est à vous de le faire. Aliede, Abina, Veada, Abidvarim, Amorim, Ata'ava. Ça veut dire que le but de Moshe Rabbeinu, le message que voulait faire passer Moshe Rabbeinu, c'est que pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut réfléchir dans des choses qui nous permettent, qui nous poussent à aimer Akadosh Baruch Hu. Et si on ne le fait pas, eh ben on l'aimera pas. Ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui font les mitzvot tous les jours, qui sont ultra orthodoxes, parce qu'aujourd'hui il y a des étiquettes, hein, ultra orthodoxes, ultra ci, ultra ça, d'accord? Et pourtant ils n'ont jamais eu un sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Jamais.
D'accord? Comment c'est
pourquoi? Comment c'est possible? C'est très simple. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de s'arrêter, de réfléchir, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu m'a amené dans ma vie.
C'est-à-dire déjà orthodoxe.
D'accord?
Mais Akadosh Baruch Hu, ne comprend pas ces mitzvot.
C'est ultra
loubavitch, on fait les mitzvot.
Oui.
Bah, t'es en train de dire que il est possible aussi qu'il n'y ait pas d'amour.
Du tout.
Ouais.
D'accord? Non, ça veut dire, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Entre un mari et une femme. Vous pouvez avoir un homme, d'accord, qui est un excellent mari. Irréprochable. Et pourtant, il n'aime pas sa femme. mais irréprochable. Pas d'histoire, pas de Sofitel, pas de... D'accord. Pas d'histoire. Pas d'histoire, rien. Très bon père, très bon mari, sort sa femme, etc. Et pourtant, il n'aime pas. Comment c'est possible? Parce qu'il fait la mitzvah, il fait les mitzvot. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il doit faire en tant que mitzvah. Mais il n'a jamais réfléchi qu'est-ce que sa femme représente dans sa vie, donc il l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il la déteste. Il la déteste pas, mais il l'aime pas. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu veut dire au Bnei Israël. D'accord? Le contraire, impossible aussi. Mais c'est plus dur, le contraire. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël. Il dit, c'est bien, vous faites déjà les mitzvot, parce que là, Moshe Rabbeinu est à la fin de sa vie, donc il est en train de parler aux gens qui vont rentrer en Eretz Israël, qui sont déjà dans un certain niveau. C'est des gens bien. Et à ces gens-là, Moshe Rabbeinu leur dit, bon, maintenant il faut qu'on passe à la phase B. Maintenant que vous faites Torah et Mitzvot comme il faut, maintenant passez à la phase B. C'est quoi la phase B? La phase B, c'est que maintenant, il faut commencer à ressentir. Et pour ressentir, il faut prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter. Donc voilà pourquoi Moshe Rabbeinu emploie le terme faire. Parce que ça, c'est une action. Prendre du temps de s'arrêter, c'est une action. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir, il faut s'arrêter. C'est une action, c'est pas un sentiment. Valzet Sivak Vartrila. Le Sifri, il va encore plus loin. Je vais traduire ce qu'il explique ici. Le Sifri va encore plus loin. Le Sifri, il te dit, tu sais, tu veux aimer Hachem. Pour, avant d'aimer Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord, je vais traduire. Dans la première partie du schéma, qu'est-ce qu'on dit? Dieu nous demande de l'aimer. Ve'avta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Ve'ayu advarim aele. Ils seront ces paroles, Asher anochi metzavecha ayom, que je t'ordonne aujourd'hui, al levavecha, sur ton cœur. Sifri pose la question, mais ça veut dire quoi que Dieu te dit, les paroles que je t'ordonne seront sur ton cœur? Je fais quoi? C'est-à-dire quoi, je garde une parole sur mon cœur? Comment vous avez compris? Comment vous comprenez quand vous faites le chemin? Ça veut dire quoi, garder une parole sur son cœur? Explique le Sifri qu'en vérité, c'est le conseil que la Torah est en train de te donner. Comment aimer Akadosh Baruch Hu? Si tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, il faut prendre à cœur. Il faut prendre les paroles et les ramener à ton cœur. Et après, automatiquement, tu vas aimer. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Ça veut dire quoi, prendre les paroles et les mettre sur le cœur? De quoi tu parles? Tu aimeras Hachem ton Dieu, d'accord? De tout ton cœur, de tout ton âme, etc. Et tu mettras ces paroles sur ton cœur. Je fais quoi? Le Sifri explique qu'en vérité, la Torah est en train de te donner la technique. Comment tu vas aimer Akadosh Baruch Hu? C'est quand tu vas prendre une parole, c'est-à-dire tu vas prendre des choses qui sont de la vie de tous les jours, auxquelles on ne fait pas attention. Et tu vas les amener à l'Evavecha. Tu vas les amener auprès de ton cœur. Et tu vas essayer d'analyser qu'est-ce que ça représente dans ma vie. Voilà le message que Moshe Rabbeinu voulait faire passer à la fin de ses jours au Bnei Israël. Que pour ressentir, il faut prendre le temps de réfléchir. Maintenant, on comprend. Veiné. Alors, tout ça, rappelez-vous, c'est une introduction du Admor HaZaken pour expliquer pourquoi, dans les chapitres qui vont suivre, dans le Shar HaEichud VeEmuna, on va parler de la Emuna. Pourquoi on nous parle de la Emuna? C'est pas parce que simplement on fait un cours de pensée juive. Parce qu'on nous parle de la Emouna pour nous éduquer à aimer Akadosh Baruch Hu. Quand on s'éduque à aimer Akadosh Baruch Hu, c'est toutes les mitzvot qui changent. Là, Admor HaZaken explique pourquoi il faut s'éduquer à aimer Akadosh Baruch Hu. Et quand vous avez des gens qui disent, moi je connais que la halakha et le reste ça m'intéresse pas, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Parce que on est à côté de la plaque. Veine. Al Ahavazo Hasheni Tchayach Lashon Mitzvah Vetzivui. Sur cet amour qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire l'amour qui vient par la réflexion, qui n'est pas inné, parce qu'il faut réfléchir, ça prend du temps. Sur ça, Shayach Lashon Mitzvah Vetzivui. Sur ça, on peut dire que Dieu nous ordonne de faire quelque chose. Oui, il faut prendre du temps, il faut le faire. Il faut le faire, il faut se mettre en condition. Il faut créer la cause, d'accord, qui va engendrer l'effet. L'effet ne viendra pas tout seul. On n'aimera pas Kadosh Baruch Hu tout seul comme ça. Il faut créer la cause. C'est quoi la cause? C'est l'éducation. L'éducation personnelle, comment on doit s'éduquer constamment. Donc, Deinu, ça veut dire, donc je vais rapidement parce que j'explique à l'oral. La Sum Libo Vedato. Bidvarim Ameorerim et Ta'av. De prendre son temps. Et d'essayer de se mettre en condition de réfléchir à des choses qui éveillent l'amour. D'accord? C'est comme dans tout dans la vie. Il faut se mettre en condition dans des choses qui nous poussent à aimer la chose. Qui nous poussent à aimer Akadosh Baruch Hu, etc. Bon. Ça, c'était pour l'amour, le deuxième amour qu'on a expliqué. C'est-à-dire, le deuxième amour, je rappelle, c'était un amour qui est généré par la réflexion. On a expliqué qu'il y a certaines personnes qu'on appelle les tzadikim.
Le grand amour.
Et eux, on a dit c'est le grand amour. Eux, c'est de série. Ils n'ont pas besoin. Alors, c'est une parenthèse qu'il ouvre. Est-ce que des gens comme les tzadikim, ils n'ont pas besoin de réfléchir à Dieu? Est-ce que c'est automatique? C'est vrai, c'est intéressant. Bon, c'est pas que ça nous concerne pas. En tout cas, moi, ça me concerne pas. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe dans leur tête, quoi. D'accord? Est-ce qu'un tzadik a besoin de prendre du temps pour penser à Dieu? A priori, non. Puisqu'on a expliqué que pourquoi je dois le faire, c'est pour me mettre en condition. Mais lui, il n'a pas besoin de se mettre en condition, il aime déjà.
Il y est déjà.
D'accord? Pourtant, il doit faire le schéma comme tout le monde. Il doit se mettre en condition comme tout le monde. Alors pourquoi il doit le faire? Là, vous allez voir qu'au passage, Admon Razakan va nous délivrer un message extraordinaire. Qui va nous apprendre beaucoup de choses sur l'avancée d'une personne dans sa vie. Les hauts et les bas. Il va nous expliquer comment même un sadique a des hauts et des bas. Quelque chose de très très fort, et je pense que quand on réfléchit bien à ça, on peut apprendre beaucoup de choses pour l'éducation des enfants. Puisque ça s'appelle Chinour Katan. Alors, on va prendre dans les mots. Aval, est-ce que vous avez dans les mots? Aval, c'est trop petit, ça va? Alors, Aval, voilà, je suis à la dernière ligne de la colonne de droite. Aval, mais, Be'aval Shona, lorsqu'on parle du premier amour, donc rappelez-vous, c'est quoi le premier amour? C'est un amour a priori qui n'a pas besoin d'éducation. C'est un amour qui est inné. C'est l'amour des tzadikim, comme on a dit. Sheishal evet aolam elea, qui est une flamme, comme une flamme qui monte d'elle-même. Ça veut dire que la machine, elle tourne déjà. Comme les tzadikim. Lo shayach lashon tzivui mitzvah klal. A priori, pour un tzadik, il n'a pas besoin qu'on leur donne d'aimer, puisqu'il aime déjà. Veload, pas seulement ça. Ela, sheim matan tzarach el tzadikim. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara dit que Kadosh Baruch Hu, il a envie de commencer à récompenser les tzadikim dans ce monde-ci. Il le fait pas toujours, mais il a envie de commencer à récompenser les tzadikim dans ce monde-ci.
Du coup, il a envie.
Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il leur donne des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qu'il leur donne? On dit que de la même manière, écoutez bien ce que je veux dire, de la même manière que quand on est au Gan Eden, c'est quoi le salaire du Gan Eden? Quand on est au Gan Eden, on profite du rayon de la Shrina, c'est la chaise longue, tu vois. Et ben, quand à Kadosh Baruch Hu veut faire kiffer, tu vois, tu t'es là, tu bronzes, qu'est-ce qui te fait bronzer? C'est le rayonnement de la Shrina. Explique la Gemara. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire kiffer entre guillemets les tzadikim, va leur donner un avant-goût de ce qui va se passer en haut, qu'est-ce qu'il leur fait?
Il les envoie une semaine à Marrakech.
Il leur rappelle, écoutez bien, d'accord? Il leur fait goûter un avant-goût du Olam Haba. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas d'épreuves en bas. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il leur amène un avant-goût du Olam Haba, c'est-à-dire qu'ils se mettent à comprendre et à voir des choses extraordinaires. Donc une personne comme ça, il a plus besoin a priori, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Il n'a pas besoin de réfléchir parce que Dieu lui montre déjà qui il est.
Une démonstration.
Donc il n'a pas besoin. Alors ça, il n'a pas besoin. Et en vérité, Admon Razakan ne parle pas seulement de Tzadikim. Il parle de nous aussi dans notre vie. Mais des fois dans notre vie, Baruch Hashem, les choses vont bien. Ça va bien, Baruch Hashem. On fait les mitzvot comme il faut, on fait tourner comme il faut. Je veux dire, la vie elle tourne normalement. Et on se dit, bon écoute, pourquoi tu veux que je me prenne la tête maintenant à réfléchir pourquoi je dois aimer, pourquoi je dois craindre? Baruch Hashem, je fais les choses bien. D'accord? On ne sait pas qu'on est un Tzadik, mais Baruch Hashem, ça tourne bien. Et là, Admon Razakan va expliquer que même lorsqu'on est dans une phase comme ça, que Baruch Hashem, on atteint une vitesse de croisière, on a toujours des hauts et des bas. Comme il va expliquer ici. Dans les mots. Alors, et là, chez Imatan Sraram Shtadikim Litom Men Olamaba Bolamazé. Shale Nemar Avodat Matana Etenatlu Natrem. Dieu il dit que je rendrai votre service un service de cadeau. Ça veut dire quoi un service de cadeau? Explique le Zohar. C'est quoi un service de cadeau? C'est-à-dire un cadeau, je vais au coup des fois pour les tzadikim. Il leur donne un petit bonus, un petit cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'il les fait kiffer en bas. Il leur donne un avant-goût du plaisir et de la sérénité qu'ils auront lorsqu'ils seront au Olam Haba. C'est ce qui explique la sérénité qu'on voit chez les tzadikim. Cette sérénité, c'est un avant-goût du Olam Haba. D'accord? Donc une personne qui est serein comme ça, comme un tzadik, est-ce qu'il a besoin d'après vous de prendre du temps pour réfléchir à la grandeur de Dieu? A priori, non. Il n'est pas comme nous. Nous, on a besoin de se le rappeler constamment, de se mettre en condition. Lui, il n'a pas besoin de se mettre en condition. Il est en plein dedans. Il est dedans. T'as pas besoin de lui rappeler. Et pourtant, dit l'Admon Razakan, que même une personne comme ça, et donc à plus forte raison de nous, ach, cependant, iné yadoua le yodrim. C'est connu pour les connaisseurs. Quand l'Admon Razakan dit c'est connu pour les connaisseurs, ça veut dire que c'est quelque chose que, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, mais les connaisseurs connaissent. Écoutez bien ce que les connaisseurs connaissent. Ta'ama dikra, la raison du verset, ma'ay dirtiv, ki sheva, Yipol Tzadik Vekam. Il y a un verset dans Michelet, très bizarre. Michelet du roi Salomon, toujours Michelet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Tzadik tombe 7 fois et se relève. Comment vous comprenez ce verset? Comment vous comprenez? Allez, se réveille. Ça veut dire quoi pour vous qu'un Tzadik il tombe 7 fois et il se relève?
Il tombe de niveau.
Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous voyez ça?
Non, c'est bizarre. On n'est pas.
Non, expliquez-moi.
C'est-à-dire que chaque jour, c'est peut-être associé au jour.
Moi, j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que lorsqu'il tombe, il reste statique?
Forcément.
Il est moins.
Il tombe
sadique.
À son niveau.
Il est
ah
moins.
Oui. Non. Il baisse de niveau, c'est ça?
J'ai compris.
Non, mais attendez, écoutez ma question, je répète. Il dit, un sadique, il tombe cette fois et il se relève.
A priori,
c'est
oui.
C'est lié
il
au
reste
jour, peut-être,
sadique.
À mon avis, non?
Donc, quand il tombe, il reste sadique ou pas?
Oui.
Est-ce que quand il tombe, il reste sadique?
Mais forcément, oui. Il reste sadique.
A priori.
D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire tomber. Quand on entend, quand vous entendez le mot, d'accord, écoutez bien les mots, vous entendez les mots, un sadique tombe. Quelle idée vous vient à l'esprit?
Il perd de...
Spirituel.
Spirituel, c'est-à-dire qu'il s'est cassé la figure, il a fait une avéra, il a fait quelque chose. Mais dans ce cas-là, c'est plus un sadique.
Il fait une mitzvah moins bien que d'habitude.
Physiquement.
Il tombe?
Physiquement.
Physiquement, tu dis toi?
Non.
Il peut faire une mitzvah moins bien que d'habitude.
Il a physiquement pour réveiller son cœur et son âme, mais on peut lui permettre de réfléchir un
peu plus. Mais ça veut dire quoi qu'il tombe? Il tombe comment?
Bah, il tombe, il chute sur un caillou.
Hein? Il tombe physiquement, tu dis. Et pourquoi 7 fois? Ça veut dire quoi 7 fois? C'est quoi le chiffre 7?
Il y a une notion de niveau, de 7 niveaux.
7 niveaux?
Ouais.
Alors on va voir ce qu'il explique à Noam Razaken. Regardez bien. Noam Razaken a une approche très intéressante et que je pense que même pour les gens qui ne sont pas tzadikim, ça nous concerne. Il dit comme ça, au Bifrat, que explique à Noam Razaken, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzadik il tombe 7 fois et qu'il se relève? Dès que les gens entendent le mot tomber, tout de suite ils imaginent, oui, tomber, ça veut dire que...
Sur un caillou.
On a découvert le poteau rose, on ne sait pas ce qu'il a fait. D'accord? Pas du tout. C'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas ça. Quand on dit que le tzadik est tombé, ouais, ça veut dire quoi?
Il a perdu de l'amour.
Ça veut dire que le tzadik a arrêté de marcher. Alors, je vais expliquer, écoutez bien. Donc, la différence qu'il y a entre les anges et les hommes, c'est que les anges sont stationnaires. C'est-à-dire qu'un ange peut rester toute sa vie. Toute sa vie. Enfin, toute sa vie, parce que vous savez que même les anges ont une durée de vie limitée. Un ange peut rester toute sa vie au même niveau sans qu'on le lui reproche. Et sans qu'il descende. C'est-à-dire qu'il peut rester stationnaire.
Géostationnaire.
C'est comme dans l'espace.
Statique.
Comme dans l'espace. Dans l'espace, vous pouvez laisser un objet, vous revenez 500 ans plus tard, il est toujours là, il n'a pas bougé. D'accord. Ça bouge un petit peu.
Wow. Non, d'accord. C'est pas que ça bouge un petit peu. C'est par rapport à quoi? C'est le référentiel.
Bah oui, d'accord.
J'ai une orbite géostationnaire.
C'est un machal. C'est un machal. Ça veut dire quoi?
En même temps.
Ça veut dire que quand on est un malar, il ne bouge pas. Il est omed, il est stationnaire. Les hommes, et même les tzadikim, sont des mehalchim. Mehalech en hébreu, ça veut dire quoi?
Mouvement.
Ça veut dire qu'on est constamment en mouvement. Bon. Mouvement. Ce qui veut dire que même le tzadik doit être constamment en mouvement. Qu'est-ce que c'est le mouvement d'un tzadik? C'est quoi le mouvement d'un tzadik? Ben, le mouvement d'un tzadik, ça doit toujours être un mouvement qui va vers le haut. Ça veut dire qu'il doit toujours chercher à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Le jour où le tzadik...
Pourquoi? Quand on n'avance pas en recul, c'est normal, on dit ça.
Une seconde. Ça veut dire que lorsque le tzadik s'arrête d'avancer, d'accord, s'arrête d'avancer pour X ou Y raison, il tombe. Alors, écoutez bien ce que va expliquer Admor Azak. Je vais juste rajouter ce détail qui est important. Après, les questions. Avec plaisir. Lorsqu'une personne avance, il doit obligatoirement, à un certain niveau, oublier les méthodes de réflexion qu'il avait avant. Je vais expliquer ce que je veux dire. La Gemara nous raconte que Rabbi Zera, il a fait sa lia. Rabbi Zera, il a fait sa lia. Il a fait sa lia, et lorsqu'il a fait sa lia, donc il a dû passer du Talmud de Babylone au Talmud de Jérusalem.
De façon de réfléchir.
Et la Gemara, elle raconte que Rabbi Zera a eu besoin de jeûner 40 jeûnes pour oublier le Talmud de Babylone. Alors les commentateurs posent la question, ils disent, mais comment on peut demander à Kadosh Baruch Hu d'oublier
la
Gemara. Pourtant, on sait très bien qu'on a appris dans Pirkei Avot, la semaine dernière, que on n'a pas le droit d'oublier quelque chose de la Torah. Et qu'on doit faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas oublier quelque chose de la Torah. C'est vrai que c'est un interdit. Une personne qui fait exprès de vouloir oublier quelque chose de la Torah, il fait une avéra négative. C'est très grave. Alors comment Rabbi Zera peut jeûner 40 jeûnes pour prier à Kadosh Baruch d'oublier le Talmud de Babylone? Et les Mefarshim là-bas expliquent qu'en vérité Rabbi Zera n'a jamais prié pour oublier la halakha. C'est pas pour ça qu'il a prié. Il a prié pour oublier la méthode, comme ce qu'a dit Yosef, la méthode d'étudier qu'on avait à Babel. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'il va arriver à Yerushalayim, c'est une autre méthode. Maintenant, écoutez bien la question que pose Admor Hazaken. Admor Hazaken, il dit, on va se mettre dans la tête de Rabbi Zera. C'est avec nous, Yaakov?
Bien sûr.
Prends un deuxième café, peut-être.
On va se mettre dans la tête de Rabbi Zera.
Alors, on va se mettre dans la tête de Rabbi Zera. Rabbi Zera est dans la phase... D'accord? C'est toujours facile de répéter les derniers mots.
C'est ça.
Parce que le cerveau, il a une mémoire vive, d'accord, immédiate. Exactement.
Plusieurs mémoires.
Non, mais là, il est concentré.
D'accord. T'as écouté bien. On va se mettre dans la tête de Rabbi Zera. Imaginez-vous que vous êtes Rabbi Zera. D'accord. Mais attendez. Imaginez-vous que vous êtes Rabbi Zera. Vous avez passé Yeshiva pendant des dizaines d'années Babylonie. D'accord. Grand Tzadik, grand Gaon. D'accord. Grande stature. Vous prenez les habitudes. Et quand vous arrivez à Jérusalem, vous dites, bon, maintenant, je jeûne 40 jours pour oublier ma méthode d'études que j'avais à Babylone.
C'est-à-dire qu'il se remet en question.
C'est-à-dire qu'il se remet en question. D'accord. Mais moi, je vous pose la question. On va se mettre dans la tête de Rabbi Zera. Quel niveau a Rabbi Zera pendant la phase de transition? C'est ça le plus dur. C'est bien
de,
la question que je viens
de
poser.
Tomber.
Les phases de transition dans la vie sont toujours les phases les plus difficiles.
Eh oui.
Toujours.
Les phases de doute.
D'accord. Tant que ça tourne, c'est comme tout, c'est comme dans la mécanique. D'accord.
Dès qu'il y a des ratés.
C'est comme dans la mécanique. Tant que ça tourne, il n'y a pas de raison que ça lâche. Dès que il y a une transition, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un passage de vitesse par exemple, c'est là que ça risque de casser. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement, parce qu'on a changé quelque chose, il y a une transition. Vous savez où on voit ça? On voit ça dans la vie. Que des fois vous avez des gens qui lorsqu'ils sont par exemple, lorsqu'ils étaient à l'école, lorsqu'ils étaient en maternelle, ils étaient parfaits. Super, tout le monde les aimait, ils aimaient tout le monde, etc. Ils arrivent au primaire, on ne comprend pas ce qui se passe, ça passe pas. Il y a eu une transition et ça s'est mal passé. Vous avez des fois des gens comme ça qui sont parfaits, primaire, secondaire, etc. Ils arrivent à la fac, catastrophe, ça passe pas. Vous avez des gens qui sont en tant que jeune homme, ils sont parfaits, arrivent au mariage, ça passe pas. Il y a un problème, il y a un blocage. Pourquoi? Comment ça se fait?
C'est pas lui, ça.
On explique dans le Zohar, c'est le Zohar qui explique ça. Il dit que toutes les phases de transition, par définition, sont dangereuses. Il explique avec ça ce que Yaakov avait dit à ses enfants. Il leur avait dit que quand vous prenez la route, une route c'est toujours dangereux. Quand tu as un endroit, t'es couvert, t'es protégé. Dès que tu te déplaces, dès que t'es en transition, dès que t'es en mouvement, c'est vulnérable. D'accord? Bon. Alors je reviens à notre Rabbi Zera. Rabbi Zera, tant qu'il était dans sa yeshiva, et qu'il montait, etc., et qu'il étudiait, etc., il était constamment en mouvement, et il n'y a pas de problème, puisqu'il est toujours dans la même sphère. Il n'a pas bougé. Mais Rabbi Zera, à un certain moment, a eu une transition. Et lorsqu'il est en phase de transition, c'est une phase qui est très fragile. Ça veut dire qu'on a vu des gens qui, lorsqu'ils étaient en phase de transition, se sont cassés la figure.
Ça, le Baal Teshuva, c'est...
Alors... Mais là, on ne parle pas d'un Baal Teshuva. On parle d'un Tzadik.
Oui.
D'accord? Et donc, quand je parle... Pourquoi je dis que ça peut nous concerner à nous? Parce que dans notre vie, on a tous des phases de transition.
C'est même pas une question de niveau de Tzadik ou tout. Ah, c'est une question de transition.
Tous, exactement. Transition, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il a eu un enfant, donc il y a une transition. On a toujours des transitions. Des choses qui changent. Et par définition... Chaque fois qu'il y a une vitesse qui passe, chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, c'est une période à risque. C'est une période dans laquelle on risque de se casser la figure. Et là, ce que va expliquer l'Admon Razaken, c'est que c'est dans des périodes comme ça qu'on va ressentir l'impact de l'éducation.
Ce qui te renforce ou pas.
D'accord? Ça veut dire quoi?
Ce qui t'aide justement.
Très fort ce qu'il va expliquer. Je répète. Vous avez une personne, par exemple, on va éduquer nos enfants. Tu dis à l'Admon Razaken, tu lui dis, tu veux que je te dise la vérité, tu as éduqué ton fils. Finalement, ton fils, il fera toujours ce qu'il veut. Toi, tu l'as mis simplement dans un environnement. Bon, tu peux te consoler avec te dire, moi, j'ai mis mon enfant dans un environnement. J'espère que cet environnement le poussera à prendre les bonnes décisions le jour X, le jour voulu. D'accord. Peut-être. Peut-être tu, peut-être non. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y a une deuxième chose que tu dis là-dedans, Zaken. C'est que l'éducation de ton enfant ressortira lorsque ton enfant aura des moments de vide. Lorsqu'il aura des passages à vide. Un moment de transition. Et c'est là que... C'est là que quand il pourra plus se supporter avec ses propres épaules, puisque c'est un moment de vide que lui-même il n'a pas de quoi tenir, qui c'est qui va l'aider à tenir? C'est les bases qu'il a reçues dans son éducation. Ça va être valable pour un tzadik, que le tzadik lui aussi aura besoin de cette éducation de la Emouna. Parce que le tzadik aussi a des phases transitoires. Et pendant ces phases transitoires, le tzadik est vulnérable. On l'a vu, on a eu beaucoup d'histoires de tzadikim qui se sont cassés la figure. Et chaque fois, on a vu, quand on voit dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu un problème, et puis il y a un tzadik, toujours il y a un moment de transition. C'est-à-dire, il cherchait quelque chose, il était dans la route. Tant qu'on reste à la même place, et qu'on continue avec nos habitudes, etc., qu'on avance, il n'y a pas de problème. Dès qu'on veut changer, d'accord, dès qu'on prend une route et qu'on veut prendre une nouvelle voie, c'est là qu'il y a des risques, et c'est là qu'on peut se casser la figure.
Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc important, tu as dit un tzadik, c'était quelqu'un qui était dans un sentiment de sérénité, de béatitude, etc.
Oui.
C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ça.
Non, ce que j'expliquais. Le tzadik est dans un sentiment de sérénité. Mais, entre les... Il a aussi plusieurs phases dans sa vie. Et entre les phases de sa vie, il a des moments de vide. On le voit des fois, parmi les défauts de ses équipes, il se dit, écoute, je suis pas dans mon élément maintenant. C'est-à-dire qu'il passe par un moment de il est dans un moment de passage à vide. Il est dans un moment dans lequel il passe à une autre phase. Et il faut le laisser tranquille. C'est pas le moment de l'embêter.
C'est-à-dire combien de temps?
D'accord.
Ça peut durer.
Ça peut durer le temps que ça dure.
Regarde, nous, par exemple.
Ah, bizarre, ça doit durer 40 jours.
On attend le Mashiach, on est dans une phase de transition.
Oui, une phase de transition, exactement.
Ah non,
c'est pas une phase de transition. Si,
c'est quoi, là? On est dans la phase de transition comme un
Non. On est dans la phase de transition. T'as raison. On est dans une phase de transition, on est dans le chemin. On est dans la route.
Oui, mais le chemin, c'est le même.
Ah ben non, pas du tout. Quand t'es le top et amygdash, on était dans un endroit donné. Donc il y a moins de risques. D'accord? Là, on est dans la route. Par définition, quand t'es dans la route, il y a des risques. Bah oui, c'est ça le gros. Tu comprends, en tant que ta voiture, elle est éteinte, elle est garée, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à rouler, tu commences à changer de vitesse, etc., là, il y a des problèmes. C'est un principe de base de la mécanique. D'accord? Que les risques arrivent principalement quand on fait des mouvements. Tu sais, il y a des sociétés dans lesquelles ils éteignent jamais les ordinateurs. Pendant des années.
Ouais. Et relancer les ordinateurs.
D'accord? C'est... Pourquoi? Parce qu'il y a des études, écoutez bien, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont démontré que le moment le plus risqué pour qu'un ordinateur lâche, c'est le moment où tu l'allumes et tu l'éteins. C'est le moment le plus risqué. D'accord? Comme une voiture, au moment où tu la démarres. Une fois après qu'il est allumé, il peut rester des années comme ça. Les ordinateurs, quand ils sont restés des années allumés, on les a éteints, le lendemain, c'est fini, tu ne râles plus, il y a une pièce qui a lâché. Parce que quand tu l'éteins et tu l'allumes, quand il y a un changement de... Quand il y a un changement, quand une transition, d'accord, c'est ça un principe de base de mécanique. Et bien c'est valable aussi pour Rhinut, c'est valable aussi spirituellement. Même pour les tzadikim, à plus forte raison pour nous. Que dès qu'on a une transition dans la vie, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose qui va changer, on est dans une période dans laquelle on est vulnérable. Et que même si, les gens se disent, mais comment ça se fait quand j'étais jeune homme, tout s'est bien passé, maintenant je me marie, je comprends pas, je trouve des choses en moi que je n'avais pas. Oui, parce que t'es devenu vulnérable, t'es passé par une phase de transition. Faut faire très attention en phase de transition. D'accord? Une fois qu'on est passé par la phase de transition, après ça passe. D'accord? Non mais c'est intéressant, c'est des choses mamaches qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mamaches. Voilà, quand on retrace la vie d'un homme, on voit que chaque fois qu'il y a une transition, c'est là qu'il y a des risques. Et continue. Il dit, donc c'est ça ce qu'on te dit ici. Le problème c'est quoi? Alors dans ce cas-là on aurait pu simplifier les choses, on a dit bon, dans ce cas-là on arrête la transition.
Il peut toujours avancer, bah ouais.
D'accord, ah bah non, on arrête, non,
on n'est pas des
au contraire.
Anges. On n'est pas des anges.
Comme les anges, un ange il bouge pas. Il est réglé comme une horloge, il tourne.
On n'est ni des anges, ni des
fonctions. Sauf que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'avancer. Donc qui dit avancer, ça veut dire que je dois prendre des risques. Comme j'ai ouvert un magasin, tu dis bon maintenant il faut ouvrir un deuxième. Mais attends, je suis pas avec un magasin, ça tourne. Je fais comme un ange. J'ai une boutique, ça tourne, je le sois tranquille. Il dit, ah, t'as ouvert une deuxième maintenant. Tu prends des risques. Et tu risques de tout casser. Tu ouvres un deuxième, troisième. D'accord?
J'ai pas encore ouvert le premier.
En
transition,
ouais. Alors le chiffre 7, c'est un chiffre qui correspond à la nature. C'est pour dire que le tzadik naturellement, selon la nature des choses, quand on avance, il passe par des phases de transition, comme on a expliqué ici.
C'est là les modes.
Mais oui, cette fois c'est une image, pour dire que selon les lois de la nature, il tombe. Alors encore une fois, ce que va expliquer ici la Gemara Zaken. Donc Vetzarich Leler, Velo la Mob, Madrega, Hat Leolam. On demande à une personne de marcher et de ne jamais stationner le Madrega Achat dans un même niveau, Léolam, toujours. De dire, bon, ça va, je reste là, je repose sur mes lauriers, tout va bien, Baruch Hashem. Non, Dieu n'est pas content. Maintenant, le problème, il dit l'Admor HaZaken, ou Ben, Madrega le Madrega, pourquoi on dit que le Zadik il tombe? Ça ne veut pas dire qu'il tombe depuis Davirot, sinon il est plus Zadik. Le problème, non, c'est pas ça tomber. Tomber, c'est Ben Madrega le Madrega. Entre un niveau et un autre. C'est comme une marche, quand tu montes les marches de l'escalier. Tant que t'es sur une marche, tu bouges pas, y a pas de risque. Dès que tu commences à grimper, pac, c'est là que tu commences, il y a un risque de perdre ton équilibre. Et ben c'est exactement la même chose pour le tzadik. Il est en parfait équilibre, il tient, il dit, hop, attention, faut monter la marche suivante. Maintenant, il monte la marche suivante. Donc il y a forcément une étape de vide. Une étape qui est difficile. Une étape de transition. Donc, ubi prinat, nefilam et madrigator et shona. Le tzadik, avant d'arriver au deuxième niveau, on lui dit, il faut d'abord que tu tombes du premier niveau. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui dit,
avant d'arriver au deuxième niveau,
il faut oublier ce qu'il y avait dans le premier niveau. D'accord? C'est que si tu as un verre plein ne peut pas recevoir. Si tu veux recevoir ce qu'il y a dans le deuxième niveau,
il faut te mettre dans les conditions.
C'est Lionel, je crois. Lionel, c'est ça ? Ah.
Bon.
Alors, si...
Ça arrive au bon moment, la phase de transition.
Mieux vaut jamais que tard.
Non, mieux vaut tard que jamais. Mais il nous l'a joué vers l'or.
Ah, d'accord.
Ok. Dis-la de Morazaken, je continue. Il dit, bismuth, ah oui, c'est...
Mieux vaut jamais que tard.
C'est la référence dans laquelle...
Des fois, il sort des trucs, tu réalises même pas, ça arrive, tu dis, ah oui, il a dit mieux vaut jamais que tard.
Mieux vaut jamais que tard, je peux te dire que c'est d'actualité.
Alors, nous dit l'Admor Hazaken, donc maintenant, quand nous dit l'Admor Hazaken, pourquoi on dit que le tzadik il tombe pourquoi on dit que le tzadik il tombe plusieurs fois hein? C'est vrai que le tzadik il tombe, pas Kras Veshalom, il tombe et qu'il fait d'Averot, non. C'est que quand il est dans une phase de transition, qu'il doit s'apprêter à passer à un nouveau niveau, le tzadik va forcément passer par une étape dans laquelle il va passer à vide. Et donc, quelque part, il va tomber. Oui, il va tomber. Il va être dans une phase dans laquelle, par exemple, il pourra pas bénir, il sera dans une étape de passage à vide. Parce qu'il est, il est obligé. Pour passer au deuxième niveau, il doit oublier ce qu'il avait dans le premier niveau. Sinon, ça passe pas. C'est comme ça. Et donc, dit l'Admor Hazaken, Arki Paul le Yutal. Avec ça, on comprend un autre verset de David Ameller dans Tehilim. David Ameller, dans le psaume 37, il dit, Ki Paul le Yutal. Il dit que même lorsqu'il tombe le tzadik, ça ne prend en rien de son travail. Ça veut dire quoi? S'il est tombé, il s'est cassé la figure. C'est comme s'il dit, il est tombé, il s'est pas fait mal. Maintenant, on comprend. C'est que là, on parle d'une personne qui... C'est pas une personne qui tombe et qui s'est cassé la figure. On parle d'une personne qui tombe. Ça veut dire qu'il a mis de côté ses méthodes d'approche, ses anciennes méthodes d'approche, pour avoir de nouvelles méthodes d'approche, comme l'exemple qu'on a pu donner de Rabbi Zera, et comme des étapes de transition. On en a beaucoup comme ça dans notre vie. Que ce qui marchait quand j'étais jeune homme, et ben quand je me suis marié, maintenant, c'est de nouvelles méthodes. Et que si je pense que je vais faire la loi quand je suis marié comme je faisais quand j'étais jeune homme, j'aurais compris. Etc. D'accord? Après il y a les enfants, après il y a un enfant, après deux enfants, après il y a trois enfants, après les enfants ils grandissent, et si on pense que la loi qu'on faisait quand l'enfant était petit, c'est la même loi qu'on va faire quand il a grandi, exact, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une transition, on doit mettre de côté ce qu'on a fait avant, et réfléchir comment utiliser de nouvelles méthodes. Chaque fois qu'il y a une transition, il y a forcément des risques.
Tu parles de t'adapter, là.
D'accord?
Il faut s'adapter.
S'adapter, et quelque part oublier les méthodes qui ont marché. C'est ça. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc, Ve'eno Nikret Nefila, et là, le Gabé Madrigato Arishonev, le Gabé Shark, la Dame Khazverhaïla. Maintenant, c'est vrai qu'on appelle ça une chute, mais c'est pas une chute. Il n'a pas chuté. Il a chuté par rapport à son niveau d'avant. Pour accéder, comme on a expliqué, à un niveau spirituel plus haut. Comme Rabbi Zera, qui a demandé à oublier les méthodes du Talmud de Babylone.
Par contre, il a dit 7 fois.
Oui.
C'est la nature.
On a expliqué, 7 fois, ça correspond à la nature. C'est-à-dire que c'est naturel. Shafal Piken, ou les malamikol Adam Bavodato, qui nishar bab prinad reshimu madrigator ishona. Et là, on va arriver au point que je vous l'explique. Qu'est-ce que dit l'Admor Hazaken? Comment le tzadik va faire pour tenir dans la phase de transition?
Justement.
La phase de transition, écoutez bien, elle peut durer 40 jours, elle peut durer un mois, elle peut durer des années.
Ça fait 40 ans.
Comme elle peut durer quelques heures.
Ça dit que c'est 40 jours.
On est d'accord?
Oui, 40 ans.
Cette phase de transition, c'est une phase qui est une phase très dangereuse. Comment le tzadik fait pour tenir dans cette phase de transition? Il peut pas tenir sur ses acquis, puisque ses acquis, il en a pas. Il vient de les mettre de côté, on est d'accord? Ses acquis, il vient de les mettre de côté. Il a dit que maintenant, je peux plus me baser sur mes acquis. Alors, comment le tzadik fait pour tenir? Ben, nous dit l'Admor Hazaken, le tzadik, comment il fait pour tenir? Il tient grâce à l'éducation qu'il a eue. Et la même chose, on peut comprendre que l'impact qu'on a sur nos enfants, bien sûr, c'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les mettre dans un environnement que le jour où ils devront prendre des décisions, eh ben, je les mets dans un environnement propice pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est également pour les aider dans les moments de vide qu'ils auront. On a tous des moments de vide. Et dans les moments de vide, qu'est-ce qui nous tient? C'est les bases qu'on a reçues dans l'éducation.
D'accord?
C'est les bases. Non, l'éducation, oui, c'est aussi ça, mais je parle surtout de l'éducation qu'on a transmise depuis tout petit. C'est là que, dans les moments à vide comme ça, c'est là qu'on voit l'éducation qu'une personne a reçue tout petit, et c'est là que vraiment cette éducation ressort. C'est là que les vraies bases qu'une personne a ressort. Parce qu'il est vide, il a rien en lui maintenant. Tous ses acquis sociaux qu'il a eus, ça s'effondre. Parce que lui-même a décidé maintenant de passer à un nouveau niveau. Donc tous les acquis sociaux qu'il a eus, il les met de côté. Alors qu'est-ce qui le fait tenir? C'est le chinour, c'est l'éducation qu'il a eue. C'est quoi l'éducation qu'un tzadik a? c'est le temps qu'il a passé à réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce temps qu'il a passé, ça a forgé une certaine force. Et avec ça, l'Admor HaZaken nous explique quelque chose. Il nous dit comme ça, il nous dit, on peut passer, c'est quoi le message que nous fait passer l'Admor HaZaken? Deux choses. Premièrement, pourquoi c'est très important d'étudier des cours qui parlent de Emouna? Premièrement, on l'a expliqué la semaine dernière, parce que la majorité, d'accord, de 99,9% des gens du Ham Israël, ont besoin de forger leur Emouna. S'ils ne forgent pas leur amour vers Akadosh Baruch Hu, ils n'en auront pas. Or, on a expliqué, une personne qui ne forge pas d'amour à Kadosh Baruch Hu, envers Kadosh Baruch Hu, il passe à côté de toutes les mitzvot, parce que les mitzvot sont basées sur l'amour et la crainte. Bon, ça c'est un premier point. Mais l'Admor HaZaken va encore plus loin que ça. Il va expliquer pourquoi c'est très important d'étudier les sujets de l'Emouna. L'Admor HaZaken étudie la chose suivante, un point qu'il faut bien réfléchir. Il dit des fois, on vient à des cours, dans lesquels on parle de l'Emouna, et on sent pas que ça nous a aidés. On sent pas que ça nous concerne. On sent pas que c'est intéressant, que ça va nous amener quelque part dans notre vie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au moment où j'étudie la chose, les choses vont bien. Donc j'ai pas besoin spécialement qu'on me parle de Emouna. Sans ça, je suis déjà croyant à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Je le dis à l'Admor HaZaken, sachez que même le tzaddik, il étudie des textes de Emouna. Pourquoi? Parce que dans les moments de vide qu'on a, qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est les bases de Emouna qu'on a eues. Si on n'a pas ces bases de Emouna, on se casse les figures. Dans les moments de transition, qu'est-ce qui fait tenir une personne? C'est la Emouna. Sauf que, c'est quoi le problème? C'est que, quand on est déjà dans la phase de transition, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut avoir les bases avant. À ce moment-là, si on n'a pas les bases, on se casse la figure. Voilà pourquoi, hein, le rôle de l'Emouna est très important, et même quand on ressent pas qu'on en a besoin, d'abord, on en a besoin, nous, c'est clair qu'on en a besoin, parce que sinon on n'aime pas Kadosh Baruch Hu, mais, comme on l'a expliqué, mais plus que ça, même si on pense qu'on n'a pas besoin, et c'est vrai qu'il y a des périodes, peut-être, on a peut-être moins besoin, on en a toujours besoin quand on a des phases de transition. Et des phases de transition, on en a tous. Voilà pourquoi étudier l'Emouna est très important. Dans les mots. Ar Ikara. L'essentiel. Donc, c'est ce que l'Admor HaZaken appelle en hébreu le Reshimu. Vous savez ce que c'est le Reshimu? Reshimu, c'est la trace. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui laissent des traces. Et que des fois, on n'est même pas au courant. Et c'est seulement quand on a des passages à vide dans la vie, on a des moments de transition, des moments difficiles, que c'est là que des traces qu'on a eues dans notre éducation qui ressortent. Traces. D'accord? Des bonnes traces. Qui ressortent. Malheureusement, ça peut être aussi des mauvaises traces. D'accord? S'il y a une trace qui a été ancrée, elle ne ressort pas, parce qu'en général, c'est couvert par toutes sortes d'acquis qu'on a dans la vie. D'acquis personnels. Rien à voir avec nos parents. Rien à voir avec l'éducation qu'on a eue. Mais quand est-ce qu'on ressent ça? C'est quand il y a des passages à vide, quand il y a des moments de vide, quand il y a des moments de transition, des moments dans lesquels on est incertain. C'est exactement la même chose pour le tzaddik. À quel moment il ressent l'impact de sa Emouna? C'est quand il a des passages à vide, quand il change de monde. Quand il va changer de niveau.
Comment il fait le tzaddik fils de Racha?
Comment il fait?
Le tzaddik fils de Racha.
Alors pareil, c'est la propre éducation qu'il a eue. C'est que le tzaddik dans sa vie, mis à part le temps qu'il passe à aimer Akadosh Baruch Hu, il va passer du temps à s'éduquer. À faire des traces, tu vois.
Pourquoi il s'éduque auprès des bases.
Parce que lui aussi, lorsqu'il aura des phases de transition, il n'aura rien sur quoi se reposer.
Il doit changer constamment.
Il ne peut pas savoir au départ.
Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'on a constamment étudié les textes de Emouna.
Il doit changer constamment de niveau, le tzaddik, alors.
Oui, constamment, mais dans les grands changements, en général, on dit qu'en général, les grands changements dans la vie d'un homme sont tous les 10 ans. On s'en dit. Donc tous les 10 ans, il y a un grand changement chez l'homme. La manière comment on réfléchit, par exemple, à 30 ans, c'est pas la même manière comment on réfléchit à 40 ans. Mm-hmm. Tu prends le même sujet, tu vois que t'as une autre manière de voir les choses. En général, le grand changement se passe tous les 10 ans. Mm-hmm. Tous les 10 ans, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? On le sent d'ailleurs. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai senti.
À 30 ans.
À 30 ans.
Tu le sentiras à 40. À 50
aussi. On sent qu'il y a une approche différente. VMS, je l'ai senti, hein, sans que, c'est pas parce que j'avais étudié, c'est pas parce que je disais, vraiment on le sent. On sent qu'il y a une approche différente sur beaucoup de choses. Alors, dis l'Admor HaZaken.
C'est dans le Pirkei Avot, ça aussi.
C'est pas dans le Pirkei Avot, non.
On dit pas
c'est le Zohar. Oui. Le Zohar. C'est vrai que dans le Pirkei Avot, on incrémente à chaque fois de 10 ans.
C'est ça.
Et une fois, hein, je sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Une fois, hein, il y avait des Bahouri Yeshiva, de la Yeshiva du 770, qui allaient tous les vendredis après-midi. Ils allaient mettre les tefilines donc aux commerçants du quartier. Et dans le quartier de Kronheit, il y avait un commerçant juif, pas religieux, qui chaque fois que les élèves de Yeshiva venaient donc le vendredi après-midi pour leur proposer de mettre les tefilines, Hein, un peu comme les jeunes, ils font aujourd'hui le Barcourim de Brunois, ils font dans les magasins ici autour, la crème la bicette, l'Italie et tout. Chaque fois que les Barcourim venaient pour nous proposer, ils disaient non. Et ça faisait beaucoup de peine de Barcourim, ils ont tout essayé. Vous pouvez raconter mon anniversaire, une fois difficile pour ça, etc. Vous savez comment on peut commencer quand on veut faire les commerciaux. Mais celui-là, il y avait une tête dure. Celui-là, c'était le seul de toute la route, ça on appelle la route de Mufsaïm. Toute la route, refusé. Non, très gentil, d'accord. Quelqu'un qui a une très bonne discussion, mais c'est fini, il veut pas. Alors une fois, il y a un des Bahourim qui allait le voir. Il s'est dit, écoute, puisque j'arrive pas, à qui on pose la question? Au Rabbi, d'accord. On pose la question au Rabbi, on va demander un conseil. Ah, et pas une bracha, même un conseil. Conseil, comment on fait? Alors donc, quelques temps plus tard, c'était son anniversaire, et une fois par an, chaque fois que c'était son anniversaire, les Bahourim est rentré chez dans le bureau du Rabbi pour demander une bracha et pour demander la direction pour l'année à suivre. D'accord? La voie à suivre. Alors, le Bahour, donc, il demande au Rabbi la voie à suivre pour l'année suivante. Et après, il raconte cette histoire au Rabbi, il dit, voilà, j'ai un problème, ça me tracasse, je sais pas quoi faire. Alors, voilà ce qu'il tracassait. Alors, le Rabbi lui a dit, dis-lui la chose suivante, cet homme-là. Tu lui dis que tous les 10 ans, une personne échange. Et que peut-être qu'aujourd'hui, tel qu'il est, je sais pas quel âge il avait, tel qu'il est aujourd'hui dans cette section de 10 ans, il ne veut pas mettre les tefilines. Mais c'est évident que la prochaine section, il voudra mettre les tefilines et il regrettera pour le temps perdu. Parce qu'on change, je sais pas. Il a dit lui ça. Bon, le bachor, il a entendu ça. Il dit bon, ok, je vais répéter. Il est parti, il a répété, ça marchait. Comment c'était cette personne-là, il avait besoin d'entendre ça, qu'on se repose pas sur ses lauriers, que même si aujourd'hui il y a des choses qui te paraissent pas logiques, plus tard tu comprendras. Ça l'a marqué depuis, il a mis les tefilines tous les jours. C'est pour revenir à ce que je suis en train d'expliquer, que on voit ça, c'est ce que Rabbi Zera a voulu dire, que quand on a des phases transitoires, c'est des phases, on passe par des phases dangereuses. Et donc, on change, et donc, soit ça passe, soit ça casse. Et à ce moment-là, quand on est dans une phase de transition, qu'est-ce qui nous permet de tenir? C'est les bases qu'on a eues, c'est les traces qu'on a d'avant. C'est l'amour qu'on a inculqué en nous depuis qu'on est tout petit. On dit qu'il y a beaucoup de livres dans lesquels on parle de l'importance de l'amour qu'une mère juive inculque à ses enfants. Et que c'est des choses que des fois, pendant des années, on oublie complètement.
Il y a un livre
sur ce sujet. Quand la dernière fois qu'on a réfléchi à l'amour que la mère, que notre mère nous a inculqué d'Akadosh Baruch Hu. Tu réfléchis pas parce que t'es occupé à étudier dans les livres, etc. Tu n'y penses pas. C'est dans quel moment que ça ressort, les choses comme ça? C'est quand tu es des phases de transition. Ah oui, tu comprends. Ah, c'est pas seulement comprendre, c'est quand je m'en sers, quand je réalise. C'est quand je passe par des moments, par des phases difficiles, et que là, il y a des histoires qui me reviennent. D'accord? Ça, c'est les bases. C'est à ce moment-là que ça ressort. Des fois, ça prend des années avant de ressentir.
Très rapidement, dès qu'elle fait ton premier repas, ta femme dit, oh là là, c'était bien, je suis
là. Non, mais 10 ans après, tu as changé, et tu acceptes.
Quand tu te maries, tu dois te dire, c'est comme si j'ai jamais rien mangé de ma vie. Je sais pas ce que c'est un restaurant.
C'est
parce que c'est. D'accord. Si tu veux, tu sors, tu craques de la. Si tu veux, tu craques, tu sors de la maison, tu vas manger au restaurant, mais à la maison, tu manges quand on te donne du thé.
Ça dépend. Si t'es marié avec une Tunisienne, t'es mal.
Ah, y en a qui ont dit oui là.
Quoi donc?
Elle cuisine bien, la tunisienne.
Ah oui,
la cuisine.
Ah, tu ne connais pas la
tunisienne. Ah oui, bien.
Elle cuisine très bien. Il y a un peu d'huile.
Un peu le feu aux poudres, c'est tout.
Avant de te marier,
allez. Bon, mais si on y va. Donc, vous dites, la demande à Zaken, baiser chez Katoub. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit. Gam Kiyaskin. Qu'est-ce qu'a dit le verset? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit le verset qu'on a commencé, le verset avec lequel on a commencé Chinour Katan? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hanor Lanahar Alpi Darko. Éduque le jeune homme selon son chemin. La première phase, on l'a expliqué. Qu'il faut éduquer le jeune homme selon son chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais prendre les décisions à sa place. On doit simplement l'éduquer, ça veut dire le mettre en condition, créer la cause, qui engendrera l'effet. Mais jamais je dois engendrer l'effet. Ça n'existe pas. Sinon, ça ne marche pas. Il y a des gens qui pensent que l'effet va amener la cause. C'est une erreur. C'est-à-dire, moi, je lui fais l'effet, et après, la cause viendra. Il va comprendre pourquoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut créer la cause qui, elle, va amener l'effet. D'accord? Ça, c'est le premier point qu'il a expliqué. Alpi Darko. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut l'éduquer selon son chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire d'Averot. Mais ça veut dire qu'il faut le laisser aimer Akadosh Baruch Hu comme il a envie de l'aimer. Et que si pour lui aimer Akadosh Baruch Hu, ça veut dire étudier la Torah toute la journée, laisse-le étudier la Torah toute la journée. Si pour lui aimer un Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, ça veut dire être businessman et aider des yeshivot, laisse-le aimer un Kadosh Baruch Hu comme ça. D'accord ? Laisse-le, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Toi, ce qu'on te demande simplement, c'est de l'éduquer, de lui montrer la direction. Après, qu'est-ce que...
Donc, comme il dit, est-ce que dans les faits, ça se fait ?
Bien sûr,
dans
le
monde religieux, je veux dire.
C'est-à-dire quoi, ça se fait ?
Est-ce que c'est vraiment quand on dit ça, s'il est doué pour le business, ou tu laisses aller vers
bien
le business ?
Bien sûr. Des fois, il y a des choses qui font de la peine.
Voilà.
C'est bizarre que ça fait de la peine. Mais ça change pas qu'après, c'est la manière comment les parents vont gérer ça.
Si tu vas dans le business, c'est pas pour les meilleurs.
Pour ? Non, parce que c'est, il ressent qu'il est plus attiré vers le business. Donc oui, ça veut dire que c'est sa manière de servir un Kadosh Baruch Hu. C'est sa manière de faire les choses. Bien sûr. Mais c'est pas un truand, il va arnaquer personne. C'est quelqu'un qui aime bien vivre.
C'est pas péché.
Pas du tout.
Mais bien vivre, c'est le kiff.
Non, pas du tout. Non,
il se rend.
Tu veux que je dise, ça on le sent. Enfin, ça je l'ai vu à la Yeshiva. On le sent depuis qu'ils ont en général 12, 13 ans, même avant. Tu le vois, ils te vendent des trucs, ils te vendent des Mister Freeze, ils te vendent des je sais pas quoi. Tu le sens qu'il a le business dans le sang. D'accord. Tu sens qu'il enfin, tient pas en place.
C'est pas ça, c'est que j'en ai besoin.
Je me rappelle, il y avait comme ça des, il venait, ouais, il te vendait des, vous savez, je sais pas si vous avez connu, des rondos, des Mister Freeze, des réglises, des trucs comme ça. Des trucs, gagner des clopinettes, mais tu sens qu'il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang, il peut pas tenir en place. D'accord.
Il a besoin d'argent.
Pas du tout, il a pas besoin d'argent. Il a ce qu'il faut, il a, c'est dans le sang. C'est des natures, de businessman. Il a une nature comme ça. T'as des gens qui ont une nature studieuse, t'as des gens qui ont une... C'est des natures. Et c'est pas à moi de mêler quelle sera la nature de mon fils. Il a la nature qu'il a. Je peux pas la changer. Par contre...
On n'a pas dit que c'était moins bien.
Oui, c'est pas moins bien. Bon, mais des fois, il y a des choses que... On aimerait... Tu comprends, il voudrait que son fils il soit médecin, il soit avocat. Et son fils, il a envie de vendre des portables.
Je veux pas les voler, les portables.
C'est pas grave. Il y a des gens comme ça, ils ont commencé à vendre des portables et... Non, je dis ça parce que je connais une histoire comme ça. Quelqu'un que ses parents lui ont fait un scandale, très intelligent. Il a quitté l'école à 15 ans, il est parti vendre des portables. Ses parents, je vous dis pas la mort qu'ils lui ont fait. Mais maintenant, il a des...
Tu vois, donc même les parents, ils étaient
pas d'accord.
Mais parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont
pas d'accord. D'accord.
Mais c'est normal.
Et ben oui, il y a quelqu'un...
C'est un potentiel, les parents, ils sont
sûrs. Vendre des portables, j'ai rien contre les vendeurs de portables.
Non, non, non.
Mais non, ça veut dire...
Ça peut commencer par des choses avec lesquelles les parents ne sont pas d'accord.
Je connais,
tu vois.
Je rappelle la phrase
de quoi
que tu as dit.
Qui sont partis de l'école et qui sont
venus. Voilà.
Les deux.
Et qu'ils ont explosé. D'accord.
Rappelle la phrase.
Tu peux rien faire quand il a le feu. Quand un enfant a le feu, tu peux rien faire.
Rappelle la phrase.
Chanoch lana alpi darko. Donc je répète. Éduque le jeune homme alpi darko selon son chemin, pas selon ton chemin, selon son chemin. Ça veut dire que essaye de le diriger dans la bonne direction, mais avec sa manière de faire les choses. Comme, exactement comme Moshe Rabbeinu a fait. Il nous a pas dit aimer Dieu comme moi. Ah là, tu te la Torah toute la journée. Il a jamais dit ça, Moshe Rabbeinu. Il a dit, voilà, je vous présente les faits. Voilà ce qui s'est passé.
Pourquoi tous les religieux sont à la Yeshiva ?
Deux secondes.
Et ils restent en vie à la Yeshiva. Et dès qu'ils sont en bas, c'est une catastrophe.
Dès que quoi ?
Dès qu'ils sont en bas, ils sont déçus, c'est la catastrophe.
Pourquoi c'est une catastrophe ? Je ne comprends
pas.
J'ai pas compris
la question. Parce que si toi, demain, ton père, il voit que tous ses enfants, ils vont jouer au football, ils vont des portables, il va pas être content.
Bien sûr qu'il va pas être content.
Alors,
non, mais attends, c'est pas seulement lié à la religion.
Je veux pas décider la façon dont
ton fils soit... Oui, mais
non,
tu as envie que mon fils, il soit avocat.
Il a une certaine carrière.
Et il veut pas.
Et il a envie de... C'est ça qu'on parle, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça le fils d'Arco. C'est que moi je peux l'éduquer, c'est quoi le pidarko ? C'est-à-dire que moi le but c'est quoi ? Le but c'est que mon fils ait un amour et une crainte d'Akadosh Baruch Hu. De créer l'environnement qu'il faut pour que mon fils, bien sûr qu'il fait les mitzvot, mais de le pousser à aimer et craindre Akadosh Baruch Hu. Irat Shamayim, la crainte de Dieu, c'est-à-dire quand il entend quelque chose... Attendez, deux secondes. Ça veut dire être intéressé par le judaïsme et ne pas vouloir décevoir Dieu.
Oui, mais c'est d'être
pas lui. Deux secondes. Ça c'est mon but. Maintenant, comment mon fils aimera Dieu ? Comment, de quelle manière il va craindre Dieu, je n'en sais rien. Il aura sa manière de le faire.
Comment tu veux l'éduquer ?
D'accord ? Comment je l'éduque ? C'est ce qu'on a expliqué. C'est le chinour, c'est ça le chinour.
Que lui qui
d'accord ? Pas du tout. C'est quand je lui donne des bonnes bases. C'est-à-dire, je le mets dans une bonne école, d'accord ? Je l'encourage à étudier, etc. Je ne sais pas comment mon enfant, le jour où il devra prendre ses propres décisions, qu'est-ce qu'il décidera ? J'ai strictement aucune idée.
Mais
ce que je sais,
parce qu'on y
c'est
peut
que
rien.
Je n'y peux rien. Mais ce que je sais, c'est que je lui ai donné les bonnes bases. D'accord ? Je lui ai donné les bonnes bases. Regarde ton milieu déjà, après tu regardes le milieu des autres. Excuse-moi. D'abord, regarde d'abord ton milieu.
Non, je parle de ce que tu
dis. Pas du tout. C'est clair que les gens qui font les chevaux, ça se passe très très bien. Ouais. D'accord. Regarde les problèmes qu'il y a. D'abord, on regarde les problèmes avec nos enfants. Après, on verra les problèmes avec les autres. Ça se passe très très bien, Baruch Hashem. Il n'y a pas de problème. Tout va bien, Baruch Hashem. Ouvre tes yeux, tout va bien. C'est pas malheureux, ils vivent bien, Baruch Hashem. Ceux qui ont décidé, c'est parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de rouler en Porsche pour vivre bien. Alors, pour reprendre l'actualité.
Mais ils veulent pas. Même si vous voulez, ils pourraient pas.
Mais ils veulent pas. Mais c'est pas tes affaires.
Ils ont de le dire.
Mais regarde, Yaakov. Parle pour toi, ne parle pas pour les autres. Excuse-moi. On va pas reprendre les dialogues de la semaine dernière. Tu parles pour toi, parle pas pour les autres. Bon, je reprends notre cours. Non, sérieusement.
Ça correspond pas à ce que tu dis.
Bien sûr, ça correspond à ce que je dis.
Chacun suivant sa voie, et tu vois bien que les gens religieux, ils envoient tous leurs enfants à l'école.
Pas du tout.
Ils y restent. Et
ça veut dire qu'on éduque l'enfant.
On a jamais vu
religieux. Non, on amène nos enfants à la synagogue. On leur montre le chemin. Après,
ils font. Non, je veux reprendre la logique du Jacob. C'est comme quelqu'un qui veut dire, moi, je n'aime pas mon fils à la synagogue, parce que peut-être qu'il veut pas.
Non,
j'attends qu'il grandisse et qu'il décide de lui-même est-ce qu'il veut venir ou pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça marche pas comme ça. Non. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai rien expliqué, c'est que nous, on met un enfant dans des... Je répète, très important. Nous, on met un enfant dans des conditions. Et que moi, pour moi, j'aimerais que mon enfant me suive, j'aimerais que mon enfant serve à Kadosh Baruch Hu comme ça. Donc, je vais le mettre dans des conditions pour qu'il suive une certaine direction. Voilà. D'accord, mais jamais, ouais. Jamais, mais jamais je prends des décisions à la place de qui que ce soit. Et ça doit être clair dans ma tête. Une fois que et c'est exactement ça, on l'a vu vraiment de manière très claire chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a jamais dit au Bnei Israël, voilà comment vous devez aimer Akadosh Baruch Hu. Jamais. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a dit, voilà ce que Dieu a ordonné. Dieu a ordonné qu'il faut l'aimer. Voilà les faits. Les faits, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pris, il avait tout ce qu'il fallait, il n'avait pas besoin de nous, d'accord? On est parti de nulle part, voilà comment Akadosh Baruch Hu s'occupait de nous, il nous a présenté les faits. Et après, chaque personne va analyser les faits à sa manière. Et donc c'est pour ça que dans une famille, tu n'auras pas une personne qui sortira comme l'autre, et que même si une personne de l'extérieur, il va voir, et dans le milieu orthodoxe, il va dire qu'ils sont tous sortis pareil, pas du tout. Il n'y a pas une personne qui est la même que l'autre. Chacun a son approche, chacun a sa manière particulière de voir les choses. C'est ce qui fait la beauté de notre monde. Je rejoins notre cours. C'est écrit, Hanoch, la nar alpidarko, éduque le jeune homme selon son chemin. Ça veut dire selon sa manière de voir les choses, afin qu'il aime Akadosh Baruch Hu à sa manière, afin que, gam ki yaskin, lo yasur mimena. Même lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas de son chemin. Explique l'Admora Zaken, ça veut dire quoi, même lorsqu'il vieillira? Vous croyez qu'on parle d'un vieux ici? Dit l'Admora Zaken, pas du tout, on parle pas d'un vieux. Vous savez, c'est quoi le vieux? La vieillesse, c'est quand on passe dans des phases de transition. C'est quand même... D'accord.
Mais
attendez.
C'est ce que tu dis.
Et donc, on dit à l'enfant.
Tu as grandi.
On dit Hanoch Lanar Alpidarko. Éduque l'enfant. Essaye de faire que cet enfant suive ton chemin. Maintenant, tu sais bien que tu sais pas le chemin que va suivre l'enfant. Et que des fois, tu peux croire que tu t'es planté. Il dit voilà, je l'ai éduqué dans une direction. Il a pris la direction opposée. Donc, je me suis planté. Tu dis non, tu t'es pas planté. Parce que tu sais quand tu verras que tu t'es pas planté. Gam qui askin. Lorsque cet enfant va vieillir. C'est-à-dire lorsqu'il va passer dans une phase de transition. Et c'est une phase naturellement qui sera une phase de passage à vide. Ben sache que l'éducation que tu as donnée à ton enfant, c'est là que ton enfant s'en servira beaucoup. Ça veut dire que, comme c'est écrit dans Yom Yom, Chazakal et Ta'amoula Shena Chosered Rekam. Jamais un effort qu'une personne a fait, a servi à rien. Ça n'existe pas. Jamais un effort qu'on fait est vain. On le sait pas des fois. On voit pas comment, on voit pas pourquoi, on sait pas. Mais un effort qu'on a fait, c'est toujours une base. La base, tu sais pas à quoi elle sert. Le jour où il y a un tremblement de terre, c'est là que tu vois qu'il y a des bonnes bases, ça bouge pas. Bon, les bases, tu les vois pas, tu dis, mais quand ça sert les bases, j'ai un immeuble. Ouais. Mais quand t'as investi dans les bases, t'as rajouté des bases, le jour où il y a un tremblement de terre, c'est là qu'on voit que s'il y a des bonnes fondations, ouais, le bâtiment, il tient. D'accord? Alors, nous dit l'Admor HaZaken, maintenant qu'on a compris ce principe-là, donc, c'est-à-dire, on a compris deux choses. Numéro un, on a compris que, on a besoin de, comment on appelle ça, de travailler notre émouna, de cultiver notre émouna, parce qu'on n'est pas des tzadikim. Numéro un. Donc c'est pour ça qu'on va devoir faire 12 chapitres qui vont nous parler de la Emouna. Mais numéro 2, on a compris une deuxième chose. Que même s'il y a des fois des choses qu'on va étudier qui vont nous paraître peut-être abstraites ou bien que ça correspond pas aux besoins qu'on a actuels dans notre vie, dis à Zmorazaken, sache que tout ce qu'on va te dire, c'est des choses que tôt ou tard, tu vas t'en servir. Dans des moments difficiles. Puisque le rôle de la Zmorazaken dans les 12 chapitres qui vont suivre, c'est de nous faire du rinour, de nous éduquer. Or, quelle est la chose la plus importante dans laquelle on doit s'éduquer? Veiné. Réchit advarim, amorim aava veaira veyesodan. La base, d'accord, je suis à la dernière, on va s'arrêter ici. La base qui éveille l'amour et la crainte, c'est quoi la base de tout? Hi a emuna ateora. C'est la emuna. Donc je répète, qu'est-ce qu'on a expliqué? Dans la, dans la Torah, on a 613 mitzvot. Les 613 mitzvot sont basés en vérité sur combien, sur combien d'axes? Sur deux axes. Un axe d'amour, un axe de crainte. D'accord? L'amour, ça, c'est, ça correspond aux êtres positives, la crainte, ça correspond aux êtres négatives. L'amour et la crainte sont basés sur quoi? Ils sont basés sur la Emouna. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer et craindre que si on a la Emouna. Donc, nous dit la Gemara Zaken, ce qu'on va faire dans les 12 chapitres qui vont suivre, on va cultiver la Emouna. Et c'est pour ça que c'est exactement ce qu'on fait quand on éduque un enfant. Quand l'enfant est tout petit, quand l'enfant est bébé, sa mère va lui inculquer la Emouna, la croyance dans laquelle je vais en croire. Sans qu'il puisse encore aimer ou craindre, parce qu'il n'est pas encore dans un âge dans lequel il peut aimer et craindre. Il n'est pas encore à ce stade-là.
C'est une croyance ou d'accord confiance?
La Emouna, la croyance, la confiance. D'accord, la, surtout la foi. C'est-à-dire savoir qu'il y a un Dieu et qu'on croit en Dieu. Après, progressivement, comme explique Rambam, lorsque l'enfant va grandir, progressivement, on va l'éduquer à commencer à faire les mitzvot. Positives, négatives. Donc, on va l'encourager à faire les choses, d'accord? À commencer à aimer Dieu, à aimer de faire certaines choses, à ne pas aimer de faire d'autres choses. Donc, on va lui donner le goût. Et progressivement, plus il va avancer, et plus on va l'encourager à avoir Ahava et Yira, l'amour et la crainte. Donc, Dilat Moura Zaken, c'est exactement ce qu'on va faire dans les chapitres qui vont suivre. On va parler de Emouna, puisque la Emouna est la base de l'amour et la crainte, et l'amour et la crainte sont la base de toutes les mitzvot. Donc, avec ça, l'Admor HaZaken, au passage, nous a donné une belle leçon de chinour d'éducation, à savoir que numéro 1, comme on a dit, l'éducation, il y a besoin constamment d'éducation, mais qu'on ne peut jamais forcer un enfant à prendre une direction. Et numéro 2, que très souvent, et dans, même dans la majorité des cas, que même un tzadik, on a dit, un tzadik qui s'éduque toujours parce qu'il ne sait jamais quand il aura besoin d'utiliser cette éducation, et que dans des phases de transition, il a besoin de cette éducation. C'est des fois, on voit dans l'éducation, enfin, moi, je suis pas à ce stade-là, mais des fois, dans l'éducation, on sait que, on lit beaucoup d'histoires, hein, dans lesquelles on dit que des fois, des enfants, lorsqu'ils sont passés par des phases difficiles, ils sont venus remercier leurs parents, ils ont dit, merci beaucoup pour l'éducation que vous m'avez donnée, ça m'a permis de surmonter cette épreuve. Pourtant, ils ne sont jamais rendus compte. Pourquoi? Parce que c'est dans les phases de transition qu'on revient aux sources, qu'on revient à la Emouna, qu'on revient
à la base.
Au fondamental, on revient à la base. Ça va-t-il. Donc la semaine prochaine, on commence à nous rattacher au premier chapitre de Charles Écoute de la Moune.
Trop tôt. Comment il a fait, Rabbi Akiva?